bonjour à vous tous. Une annonce pour vous signaler la rencontre littéraire qui débute à l'instant à l'espace bar. N'hésitez pas à venir nous y rejoindre pour rencontrer, pour écouter notre invité du jour, à savoir le cofondateur du célèbre guide du routard, Philippe Clohagen. Philippe Clohagen, bonjour.
Bonjour Pascal.
Alors merci d'être ici. Je l'ai dit, vous êtes en quelque sorte le père du célèbre guide du routard qui est né, comme on dit en Belgique, en 73. Donc bientôt 40 ans, je devrais dire le grand-père du routard, Philippe.
Ça tombe bien parce que je suis grand-père depuis exactement 3 semaines d'une petite Manon. Alors être grand-père une deuxième fois, pourquoi pas.
Alors plus sérieusement, Philippe Clohagen, le guide du routard, au départ, eh bien, c'était le fruit de votre nombreux voyages. Mais on peut dire sans doute que le voyage le plus difficile pour vous, ça a été quand vous avez voulu lancer il y a donc 37 ans ce fameux guide et le périple qui vous a amené vers les maisons d'édition qui vous refusaient tous votre projet.
Oui, ça n'a pas été très simple, d'abord parce que j'étais bien jeune, que le guide du routard à l'époque avait une connotation peut-être un peu hippie, parce que on parlait d'autostop, camping, auberge jeunesse, et ça effrayait peut-être pas mal d'éditeurs bien installés, un petit peu bourgeois. Et le guide du routard a été refusé par 19 maisons d'édition. Donc ça donne espoir à tous ceux qui cherchent un éditeur avec un manuscrit sous le bras de persévérer, parce que il y a un moment où à force d'emmerder les éditeurs cèdent et acceptent d'être d'éditer les produits qu'on leur propose.
Alors là, c'était le soulagement après 19 refus, dont une maison d'édition qui vous ont dit on ne peut pas éditer à la fois les mémoires du général de Gaulle et un guide pour les routiers, preuve qu'ils n'avaient pas trop compris votre philosophie. Un petit éditeur vous fait confiance, ça y est, c'est parti, et puis le coup du destin arrive.
Oui, donc c'était un tout petit éditeur qui s'appelait Gédalge en 73, qui a sorti le premier guide du routard. C'était un guide unique qui recouvrait une vingtaine de pays du monde entier, qui était très branché sur la route des Indes, sur l'Asie, les grands périples. On était à la recherche à l'époque d'orientalisme, d'autres de destinations un peu lointaines. Et à la suite de cette édition, très rapidement, l'éditeur, qui était vraiment un artisan, se fait écraser par un autobus. La maison dépose son bilan. Et c'est à ce moment-là que 4 éditeurs, parmi les plus prestigieux, se proposent de m'éditer. Tout simplement parce que le guide du routard, la première édition, avait eu beaucoup de presse à l'époque, dans le sens que ça correspondait à une nouvelle façon de voyager, ça correspondait à une... disons que ça tombait bien puisque c'était le début de l'avènement des charters. Les premiers charters en Belgique étaient en 67. Nous, on était bien en retard par rapport à la Belgique. C'était 71-72 que les charters sont partis de Paris. Et donc, le routard n'a pas inventé grand-chose. Il est tombé juste au bon moment. Et c'est à la suite donc de cette faillite, les éditeurs qui, quelques mois auparavant, m'avaient refusé de m'éditer, se sont acharnés à reprendre les droits. Voilà comment je me suis retrouvé assez rapidement aux éditions Hachette. Alors j'avais Flammarion qui m'avait proposé un contrat, Stock et bien d'autres, et une autre maison d'édition dont je me souviens plus d'ailleurs. Et donc j'ai démarré l'aventure avec Hachette. Ça a été, je pourrais être dans le guide des records, puisque notre couple tient depuis, c'était le premier routard Hachette, c'était en 75, donc ça fait exactement 35 ans. Est-ce que, mon cher Pascal, tu connais beaucoup de couples qui ont perduré 35 ans?
Non, là, c'est vrai que c'est un beau succès. Donc, grâce à Hachette qui a repris le flambeau, eh bien, l'aventure a continué. Vous, Philippe Kohagen, vous avez monté finalement une véritable famille de passionnés, puisque c'est ça aussi la force du Routard. C'est des gens qui sillonnent le monde pour découvrir les sentiers qui ne sont pas toujours connus, des adresses originales, chères, pas trop chères. Qui sont finalement ces hommes et ces femmes finalement qui font ce guide chaque année, puisqu'ils sont sur les chemins en permanence?
Alors, c'est une bonne question. Au dos des guides du Routard, tu as déjà 17 personnes. C'est ce que j'appelle, moi, le noyau dur, et qui correspond à des responsables d'édition, des responsables de zone. Un exemple, Isabelle Al-Soubaï est la responsable du Proche-Orient. Elle a fait Sciences Po, un troisième cycle à l'université d'Amman. Elle parle arabe. Elle a épousé un Jordanien. Elle passe ses vacances dans le monde arabe et pour le boulot, elle y retourne. Donc, elle a vraiment, vraiment une connaissance, une compétence, comme tous les autres, des destinations. Et le premier secret du guide de Routard, c'est ça, c'est que les gens sont très spécialisés sur une zone, soit parce qu'ils parlent la langue, soit parce qu'ils ont des liens personnels avec l'endroit, ils y ont vécu ou ils ont une passion particulière avec une région ou une civilisation. Ah. Alors après, excuse-moi, donc cette équipe est coiffée par un rédacteur en chef, Pierre Josse, qui lui aussi est historique au guide du Routard, parce que je l'ai embauché en 78, donc ça fait quand même 32 ans qu'il me supporte, et avec deux rédacteurs en chef adjoints, l'une sur la France et Amanda Keravel, qui est responsable des 35 guides sur la France, et Benoît qui est responsable du reste du monde et des autres guides étrangers. Alors, on ne peut pas oublier l'équipe de Hachette. Donc, il y a une douzaine d'éditeurs qui s'occupent du guide du Routard, parce que c'est un produit qui est lourd à éditer, bizarrement, puisque le guide du Routard est peut-être le seul guide francophone qui est réédité chaque année. Donc, il y a des remises à jour constante, non pas une seule fois par an, mais parfois deux à trois fois par an. On a un système informatisé qui fait qu'on fait des modifications en cours d'année, et il arrive qu'on rajoute, on supprime des adresses après trois mois. J'ai sorti au mois de novembre un guide de Bruxelles pour la première fois. Ce guide a été réimprimé en 15 jours. Donc, il a dû plaire à pas mal de Belges, mais aussi à beaucoup de Français. Et donc, sur la réédition 15 jours après, il y avait déjà des modifications, parce qu'il y a toujours une adresse qui ferme, des horaires qui se modifient. Voilà comment le guide du Routard évolue et survit dans un monde quand même de grande compétition.
Alors justement, Philippe Kohagen, au niveau de l'évolution, c'est également la force de ce guide-là, parce que bien sûr, l'image a été modifiée selon l'ère du temps, un peu les tendances, mais sans jamais renier ces grands principes, que ce soit des principes humanistes, écologiques, du respect et aussi un peu d'humour pour tout emballer.
Alors c'est vrai que c'est parfois d'ailleurs quelque chose qui m'est reproché. Je suis fils d'instituteur, donc dans le guide du Routard, bizarrement, il y a un côté didactique. Donc on essaye de prendre les gens au niveau où ils sont, c'est-à-dire on ne fait pas des grands cours ex cathedra comme certains grands guides culturels. On essaye simplement d'expliquer certaines choses qui rend notre discours, on essaye de le faire, un peu intéressant. Donc, on va expliquer l'origine des cariatides, par exemple. Cariatides, ces colonnes en forme de statue féminine. Pourquoi les cariatides? Eh bien, en 5 lignes, on explique que Caria était une ville à proximité de Sparte, et il y a eu une guerre contre les Perses. Les Perses, pour leur victoire, ont enlevé toutes les femmes du village de Caria. Et donc, les hommes, les vieillards qui se retrouvaient là pour faire vivre ces femmes perdues, disparues, on a commencé à sculpter les colonnes en forme de femmes. Alors, c'est des petites anecdotes qui sont parfois la petite histoire que peu de gens connaissent, qui sont un peu une surprise et qu'on essaye d'expliquer à des gens qui n'ont pas une grande culture de l'archéologie, de l'architecture, et ces anecdotes qu'on a envie de répéter à des amis, à des copains. Voilà. On essaye aussi de le faire d'une façon légèrement humoristique, parce que on oublie souvent que les gens qui lisent les guides de voyage, ils sont généralement en vacances, ils sont en congé, ils veulent bien se cultiver, mais ils veulent pas s'emmerder. Donc, on essaye de le faire d'une façon un petit peu amusante, enjouée. C'est pas toujours très simple, mais en tout cas, c'est le but du guide de routard. Alors, sur les valeurs que l'on défend, c'est des valeurs un petit peu personnelles. Mon père, instituteur, a été un résistant. D'ailleurs, je l'ai appris, il y a même un monument en son honneur en Bretagne que j'ai vu pour la première fois il y a un an, puisque dans la famille, personne n'en parlait. Et ça n'empêche que mon père a toujours eu, vis-à-vis de ses enfants, une volonté de pacifisme, d'équilibre, d'altruisme, de respect des autres. Et donc, toutes ces valeurs que l'on défend viennent de ma culture familiale, personnelle. Donc, on est très impliqué dans les combats contre le racisme. Je suis au comité de surveillance de la Fédération internationale des droits de l'homme, ce qui me vaut quelques inimitiés, quelques procès et surtout quelques interdictions de vente. Je suis par exemple interdit de vente en Tunisie. Je vendais 8000 guides en Tunisie. La Tunisie, depuis le grand président démocrate Ben Ali, il y a une interdiction totale d'importer les guides de routard. Je suis interdit de séjour à Cuba, je suis interdit de séjour en Birmanie, parce qu'on donne des chapitres sur les droits de l'homme qui doivent être assez exacts, parce qu'ils gênent beaucoup les gouvernements. Il en est de même pour le droit à la différence. Donc, tout ce qui exprime les sarcasmes vis-à-vis de l'homosexualité sont extrêmement... nous sommes extrêmement durs sur ce genre de choses. Le droit à la différence, et j'avais même, il y a quelques années, édité un grand poster avec des personnages de toutes les couleurs, de toutes les races, et j'avais mis en bas du poster « La terre est belle parce qu'elle est de toutes les couleurs ». Et ça fait partie de nos convictions. Parmi les collaborateurs du guide du routard, on a oublié de parler des 80 pigistes qui en plus voyagent toute l'année pour nous. Il ne faut pas oublier que les gens sont de couleurs politiques parfois différentes, même si on n'a pas les extrêmes, ni extrême gauche, ni extrême droite. Donc chacun a ses convictions personnelles. Mais ce qui me fait énormément plaisir, c'est qu'il y a un tronc commun parmi tous mes collaborateurs et que toutes ces valeurs que je défends depuis tant d'années sont partagées par l'ensemble des collaborateurs. Donc Après, c'est le droit à la différence, qui est plutôt sympathique d'ailleurs, qui nous fait des déjeuners souvent animés. Mais les valeurs défendues de base du guide du routard sont absolument intransigeantes. Et là-dessus, je n'ai même pas besoin de faire la police.
Voilà, et ça dure depuis plus de 37 ans. Philippe Lagen, est-ce qu'il y a des pays qui ne sont pas couverts aujourd'hui par le guide du routard? Ça existe?
Bien sûr. La Corée, même la Corée du Sud. Le Japon est un titre assez récent pour nous. Beaucoup de pays d'Afrique noire. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il peut y avoir des raisons de sécurité. C'est le cas, par exemple, de la Colombie. Moi, j'y suis allé. Premier soir, j'ai failli me faire vraiment casser la figure. Et racketté par la police, ce qui est quand même un peu gênant. Il y a des problèmes de santé. C'est le cas de beaucoup de pays du centre de l'Afrique, Zaïre compris d'ailleurs. Nigeria, c'est pratiquement un pays de totale insécurité où les bandits, d'ailleurs, c'est plus les policiers que les habitants. Mais bon, ça déstabilise énormément les gens, ou des problèmes de communication, d'hébergement. Pour Cuba, j'ai attendu que les Cubains puissent faire de l'hébergement privé, c'est-à-dire les paladars. Donc la possibilité pour les Cubains d'héberger dans leur propre maison des touristes jusque dans les années 94, ça n'existait pas, c'était interdit. Donc c'est en fonction de tous ces éléments qu'on fait un pays où on ne le fait pas. Voilà.
Alors il y a aussi une politique aujourd'hui beaucoup plus ciblée, parce que c'est vrai que Bruxelles a été lancée en novembre, mais le routard devient de plus en plus ciblé, avec par exemple le dernier né, la Normandie des impressionnistes, qui répond finalement à une demande de voyage plus proche et autrement plus culturel.
Alors c'est une chance formidable qu'on a eue, c'est-à-dire que la Normandie des impressionnistes correspond à la première grande exposition régionale en France. C'est-à-dire que à partir de début juin, dans 3 semaines, tu vas avoir sur l'ensemble des deux Normandies, parce qu'en France, en fait, il y a la Haute-Normandie et Basse-Normandie, deux régions administratives différentes. Ils se sont réunis pour que tous les musées expose des impressionnistes. Donc, on a rappelé des œuvres qui sont aux États-Unis, qui sont à Moscou, qui sont ailleurs, évidemment, patrimoine français, en particulier les impressionnistes du musée d'Orsay à Paris. Et les organisateurs, les deux présidents, Laurent Fabius et Pierre Berger, ont voulu que ce soit un guide de routard. Alors là, j'étais vraiment très fier. Il n'y a même pas eu d'appel d'offres. Il n'y a pas eu de concurrence. Ils voulaient. C'était décidé que ce soit un guide de routard. Alors, j'ai demandé à Fabius, que je ne connaissais pas, pourquoi nous ? Eh bien, parce qu'il y a ce côté didactique du guide de routard qui essaye d'expliquer à des gens qui n'ont pas la chance d'avoir peut-être une culture de la peinture, d'où vient l'impressionnisme, pourquoi la Normandie. Je pourrais vous dire ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a une relation extrême entre le terroir de la Normandie et l'impressionnisme. C'est un peu surprenant, mais pratiquement tous les peintres impressionnistes sont originaires de Normandie. Quelqu'un comme Renoir, qui n'a rien à voir avec la Normandie, quand il a fait de l'impressionnisme pendant 5-6 ans, il était en Normandie. C'est quand même quelque chose d'un peu inouï, magique. Et on essaye d'expliquer ça, mais d'une façon un petit peu marrante. Bon, alors vous savez tous que le grand pape de l'impressionnisme, c'est Claude Monet. Et Claude Monet, il a peint 17 façade de la cathédrale de Rouen. Alors je vais vous raconter une anecdote. Il s'installait en face de la cathédrale Et autrefois, il y avait un magasin, le magasin Lévy, qui vendait des sous-vêtements féminins. Et il était à l'entresol, et de là, il avait une vue absolument splendide sur la cathédrale. Mais comme à l'intérieur de cette boutique, eh ben, il y avait des jeunes femmes qui se déshabillaient pour essayer les sous-vêtements, Monsieur Lévy avait installé un paravent pour isoler le peintre des clientes. Et cet endroit est maintenant devenu l'office de tourisme de la ville de Rouen. Et il se trouve que j'ai appris à connaître le directeur, qui est devenu même un ami. Et je lui dis, ah bon, il y avait un paravent. Il me dit, et tu ne vas pas me croire, on a retrouvé le paravent dans le grenier. Ah bon, et alors eh bien, il a une particularité considérable, ce paravent de Monet. C'est que Monet, qui était déjà bien âgé, avait fait un trou dans le paravent. Alors, c'est le genre d'anecdote qu'on raconte dans le guide du routard, qui est assez amusante. Je raconte, par exemple, donc ça en joue, mais c'est un vrai fait historique, parce que Monet, il était comme tout le monde. Et ça donne envie de connaître plus. Et après, on rentre vraiment dans la technique de l'impressionnisme. Alors, pourquoi la Normandie, les nuages, les couleurs absolument incroyables. On venait d'inventer la peinture en tube, ce qui permettait aux gens, aux peintres, de sortir de chez eux et de peindre face au paysage. En particulier, Boudin a été le premier à peindre face à la mer. Donc lui, c'est plutôt un pré-impressionniste. Et puis on raconte d'autres choses. L'impressionnisme, en fait, tout le monde avait découvert l'intérêt de l'impressionnisme, sauf les Français, pour vous la faire courte. Donc il y avait deux marchands russes qui ont collectionné énormément d'impressionnistes qu'on voit au musée de l'Ermitage, dont beaucoup de Matisse. Les Américains. Guggenheim a été un des premiers. Les grands impressionnistes se retrouvent beaucoup plus au MoMA à New York ou à l'Art Institute de Chicago qu'en France. Et quand même, il y avait quelques rares Français qui avaient découvert l'intérêt de l'impressionnisme, dont un armateur du Havre qui s'appelait Delpeau. Et Delpeau avait 150 tableaux, ça valait pas bien cher, 150 tableaux chez lui d'impressionnistes. Et il a eu des déboires personnels, divorce, et c'était un divorce tellement violent, tellement dur, qu'il a décidé d'offrir toute sa collection d'impressionnistes au Musée des Arts de Rouen, qui existe toujours, pour que sa femme n'en hérite pas. Et donc, il fait une fondation au musée des Beaux-Arts. Le conservateur, c'était dans les années 1906, voit les impressionnistes qu'il ne connaissait pas, il était conservateur à Rouen, hein, quand même, c'était cœur de la Normandie. Il a trouvé ça très nul. Et il a dit, attendez, moi je ne suis pas une poubelle, j'accepte pas 100 œuvres comme ça. Écoutez, je vais y réfléchir. Il en a pris que 23. Il en a accepté 23, c'était une donation. Hein. Donc ça, c'est des anecdotes qui font vivre un peu l'impressionnisme d'une façon un peu amusante, enjouée, du moins on essaye, et qui permettent de mieux comprendre les difficultés d'un artiste. Hein, Monet n'a pas eu que de la chance dans sa vie. Sa grande chance, c'est qu'il était copain avec Clémenceau. Les Nymphéas, qui sont la plus grande œuvre française qu'on trouve au musée de l'Orangerie à Paris, il a mis 15 ans, 17 ans de sa vie à peindre ces tableaux successifs absolument merveilleux, il a eu un problème. C'est qu'avec le grand âge, il a eu un problème de cataracte. Et dans les années 1917-1920, par là, Monet a été pratiquement un des premiers à subir l'opération de la cataracte, qui a réussi. Mais le problème, c'est que vous savez que la cataracte modifie l'impression des couleurs. Et donc, un seul œil, parce qu'il n'a pas eu le courage de faire l'opération des deux yeux, et quand il continuait à peindre ses nymphéas, c'est-à-dire les nénuphars de son lac à Giverny, eh bien, il les voyait d'une couleur différente. Et on le voit très bien à l'orangerie, c'est que à la jointure, vous verrez que les couleurs de nénuphars sont d'une couleur un petit peu différente du fait de cette opération. Donc voilà ce qu'on essaye de raconter, et je suis très fier d'essayer d'expliquer l'impressionnisme d'une façon un petit peu enjouée.
Et finalement, en restant toujours en accord avec vos principes, parce que finalement, c'est faire redescendre l'art dans la rue, permettre à tout le monde d'aller voir ces paysages qui existent à travers les chemins, c'est finalement enlever les clivages qu'on peut parfois se mettre, comme au tout début, finalement, c'était se permettre un maximum de gens de voyager, des jeunes fauchés. Donc ça, vous êtes resté fidèle à votre principe, Philippe Claudel. Aujourd'hui, avec la crise, presque 40 ans après, on peut dire que vos routards, eh ben, ils ont encore plus de raisons de vivre. C'est plus les jeunes fauchés, mais c'est les vieux fauchés aujourd'hui qui en ont besoin.
Alors, c'est vrai que maintenant, je fais partie de la génération un peu ancienne, la génération des vieux cons, j'en fais partie et j'en suis fier, qui continue à arpenter les routes. Alors, les motivations sont un peu différentes. On cherche des adresses un petit peu plus confortables. On a abandonné les auberges de jeunesse pour des hôtels de charme. Alors, le guide du routard s'est adapté à toutes ces populations nouvelles, à ces désirs et souhaits nouveaux. Et j'essaye d'être un éditeur comme un cuisinier au restaurant. Je fais la cuisine que j'aime, mais surtout je fais la cuisine que mes clients aiment lire.
D'où finalement aussi parmi les derniers nés, les petits restos des grands chefs, ça c'est aussi une nouveauté qui fonctionne bien, justement démocratiser la gastronomie.
Oui, c'est-à-dire que vous connaissez tous le guide Michelin et ses étoiles, mais bon, en France, aller dîner dans un 3 étoiles Michelin, si vous n'avez pas 250 euros sur vous, c'est quand même très problématique. Et nous, on s'est rendu compte qu'en France, il y avait toute une série de restaurants exceptionnels, mais abordables, où la moyenne des repas, c'est 40, 50 euros, ce qui est déjà pas si bon marché, mais c'est vraiment de la grande gastronomie. On en a déniché plus de 500 sur l'ensemble de la France, et généralement, ce sont des établissements gérés par des jeunes qui ont travaillé dans des grandes brigades, chez des grands chefs, qui se mettent à leur compte, mais l'établissement est un peu modeste, petite surface. Tout le monde n'est pas filigrane, hein. Donc on n'a pas de voiturier, il n'y a pas forcément de nappe blanche, mais il y a toujours la qualité de la cuisine, l'intelligence des recettes, et résultat, on peut passer des moments exceptionnels dans des petits restaurants qui ne sont pas forcément étoilés, mais qui vous donnent des étoiles dans les yeux.
Alors, une belle réussite, on l'a dit, Philippe Clohagen, mais toute lumière cache sa zone d'ombre aussi, des échecs, des blessures. Il y en a eu également au cours de votre parcours, mais ça, finalement, ça n'a jamais ébranlé votre foi, justement, d'un monde différent et plus solidaire.
Oui, c'est tout à fait normal. Les leaders sont souvent critiqués. Je crois aussi que ça fait partie de la démocratie. C'est que lorsqu'on est un homme public, lorsqu'on fait des œuvres publiques, on n'est pas à l'abri d'être critiqué, d'être jugé. Alors parfois en bien, parfois en mal. Et ce qu'il faut, c'est essayer de tenir, mais quand on a de bonnes convictions, des équipes qui nous soutiennent, généralement, on tient le coup. Donc, ça n'a pas été... Alors, au niveau des échecs, bien entendu, le cimetière des guides du routard qui ne se sont pas vendus remplissent les soldeurs. Il y en a eu plusieurs. Et il ne faut pas croire qu'à chaque fois qu'on sort un guide, c'est un succès. Et je disais il y a quelques jours... que le bouquin qui a nécessité le plus gros investissement dans mon histoire de responsable de collection, à tel point que Hachette a demandé une coédition avec la Belgique, puisque c'était avec RTL, autrefois RTL, quand ils étaient luxembourgeois d'ailleurs, avait une maison d'édition. Et donc ils ont sorti en coédition un bouquin qui s'appelait le guide des vacances, qui s'adressait un petit peu à tout le monde. Et on tentait comme un quid, si tu veux, et on essayait d'expliquer comment bien partir dans des campings ou des relais châteaux. Donc on s'adressait à tout le monde, ce qui signifie qu'on s'adressait strictement à personne. Et de 80 000 exemplaires de premier tirage, au dernier moment, j'ai eu un petit doute, j'ai demandé un tirage à 40 000. Je pense que j'en ai vendu moins de 3 500 exemplaires. Même ma mère n'a pas voulu l'acheter, pour vous dire.
Voilà, et puis aussi, malheureusement, les polars du Routard, ça c'était aussi une très bonne idée au départ de nous offrir des polars, justement, dans des lieux. Ça non plus, ça n'a pas été...
Alors, les polars du Routard, ça a été un peu une erreur technique. C'est que, d'une part, moi je ne suis pas un lecteur de polars. C'était un contre-pied, j'ai voulu faire un polar contre Gérard de Villiers, contre SAS. Il se trouve que j'avais rencontré Gérard de Villiers, qui est quelqu'un d'extrêmement particulier, j'allais dire, mais personne n'écoute, arrogant, misogyne, macho, type absolument infernal. Et je me suis dit, mais attends, mais comment c'est possible? Moi, je vais faire... un polar avec un héros qui n'est pas un héros. Il s'appelle Ben Hassem. Donc, il est mi-breton, mi-rebeu. Mais Ben Hassem a une signification aussi israélite. Ça veut dire le fils du juste en hébreu. Donc, il y avait pas mal de connotations. Et puis, il n'est pas musclé. Voilà, c'était mon héros à moi. Premier polar, je te le dis Pascal, ont très bien marché. J'ai fait des premiers tirages à 40 000 vendus en quelques semaines, ça a été rapide. Mais le problème des polars, c'est qu'il faut les alimenter très souvent, très souvent. Et donc je me suis retrouvé dans un engrenage où il fallait sortir pratiquement deux bouquins tous les deux mois. Et donc des amis, des collaborateurs, mais je ne connaissais pas assez le monde du polar. Et autant les premiers étaient plutôt pas mauvais, au bout du 10e, 12e, je commençais à embaucher des bras cassés, les auteurs qui ne pouvaient pas se faire éditer, et ça devenait catastrophique. Mais on était un peu obligé par la demande, par les libraires, de continuer, comme le fait SAS, comme le faisait Saint-Antonio, tu vois. C'était la fréquence qui était un peu obligatoire. Et donc, on contrôlait strictement plus rien. C'était un peu une débandade à la fin.
Et pour retourner finalement sur les classiques. Philippe, un très grand merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je l'ai dit, dans 2-3 ans, eh bien, ça va être les 40 ans. Est-ce qu'il y a une fête qui se prépare?
Alors déjà, moi j'ai fait une fête à Bruxelles au mois de novembre pour le Routard Bruxelles, t'étais invité.
Avec le mannequin piece déguisé en Routard.
Oui, absolument, où on a offert un costume mannequin piece, c'était très gai, très sympa. Donc je sais pas, certainement, mais à chaque jour suffit sa peine.
Voilà, en attendant.
En tout cas, merci de m'avoir écouté.
Voilà, et je rappelle donc qu'il y a le Routard Bruxelles, hein, qui existe maintenant depuis novembre, la Belgique, les petits derniers, la Normandie des impressionnistes, petits restaurants des grands chefs, tourisme durable et de nombreux titres que vous pouvez trouver bien sûr chez nous dans toutes les bonnes librairies du monde. Philippe Kuhagen, un très très grand merci.
Surtout quand elle s'appelle Filigrane. Merci de m'avoir invité.